marque-page.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Aujourd'hui, j'ai choisi d'évoquer le roman d'une écrivaine française du XXe siècle. Pour mon plus grand plaisir, cette écrivaine et moi portons le même prénom. Il s'agit d'Elsa Triolet. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Elsa Triolet s'est tout d'abord distinguée par son engagement dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa carrière littéraire a débuté par des traductions de romans français en russe, sa langue maternelle. Elle ne se consacre à l'écriture qu'à la fin des années 1930. Elsa Triolet fut la première femme à obtenir le prix Goncourt, en 1945, pour son recueil de nouvelles, Le premier accroc coûte 200 francs. Dans le marque-page d'aujourd'hui, je préfère vous présenter l'un de ses romans moins connus plutôt que ce recueil. Le roman que j'ai choisi s'intitule Rose à crédit, et il a été publié en 1959. L'intrigue de Rose à crédit s'inscrit dans le même contexte spatio-temporel que sa rédaction et sa publication, c'est-à-dire dans les années 1950 en France. Ce contexte correspond à la période dite de la Reconstruction. Après la Seconde Guerre mondiale, la France subit une crise du logement sans précédent. Cette crise fut provoquée, d'une part, par la destruction massive des aires urbaines pendant les combats entre alliés et allemands, et, d'autre part, par le baby-boom de la fin des années 1940 et un fort exode rural. Les pouvoirs publics lancent alors la construction de grands ensembles de logements sociaux et favorisent l'accès à la propriété des ménages. Cette reconstruction s'accompagne d'une mutation en profondeur de l'économie française. L'appareil industriel est modernisé, les activités tertiaires progressent et surtout, la société de consommation s'enracine progressivement. Rose à crédit a pour personnage principal Martine Peignet. L'intrigue commence alors qu'elle a 14 ans. Martine n'a jamais connu son père. Elle vit avec sa mère et ses 5 frères et sœurs dans une commune rurale située à proximité de Paris. Elle grandit dans une cabane vétuste, à proximité immédiate d'un bois. La cabane est infestée de rats, envahie par la boue, et ne dispose d'aucune commodité comme l'eau courante. Martine est horrifiée par son mode de vie et rêve de s'en extraire. Elle est attirée par tout ce qui est propre et impeccable. À l'école, Martine est une élève studieuse et très organisée. Elle lie une amitié solide avec Cécile Donzère, dont la mère est coiffeuse. Lorsque Cécile l'invite chez elle, Martine découvre un environnement radicalement différent du sien. Dès lors, elle souhaite devenir coiffeuse, comme Madame Donzère, pour pouvoir à son tour évoluer dans un univers propre, parfumé, coloré et accueillant. Madame Donzère prend pitié de Martine et décide d'en faire son apprentie. Cette situation permet à Martine de vivre à demeure chez Cécile et sa mère. Un petit événement bouleverse le quotidien des trois femmes. En effet, Madame Donzère décide de se remarier. Son nouveau mari réside sur Paris. Elle y emménage avec Cécile, mais aussi avec Martine. Martine est au comble de la joie. Par ailleurs, elle est recrutée dans un prestigieux institut de beauté. Sa rigueur et sa beauté en font une employée très appréciée de la clientèle, de sa hiérarchie et de ses collègues. Côté cœur, Martine est amoureuse depuis son plus jeune âge d'un garçon de son village. Il s'appelle Daniel Donnel. Il appartient à une prestigieuse famille de rosiéristes. Lui-même est passionné par les roses. Ayant l'esprit plus scientifique que paysan, Daniel rêve de créer une rose qui aurait le parfum des roses anciennes, mais la forme et la couleur des roses modernes. Il est plus âgé que Martine et ne lui a jamais prêté attention. Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il fut résistant, Daniel s'inscrit dans un lycée horticole à Versailles. Martine n'a plus l'opportunité de le croiser. Malgré leur absence d'affinité, Martine vit dans l'espoir d'épouser Daniel. Et contre toute attente, ce rêve sera exaucé à Paris. Martine et Daniel se rencontrent un soir, à proximité de la place de la Concorde. Daniel tombe à son tour amoureux de Martine, puis la demande en mariage. Martine est absolument comblée. Mais malheureusement pour elle, cet état ne durera pas. Bien que très amoureux l'un de l'autre, Martine et Daniel ne partagent pas les mêmes projets d'avenir. De son côté, Daniel a vocation à reprendre l'entreprise familiale de production de roses. Pour sa part, Martine ne comprend pas la passion de son mari et le monde rural. Bien au contraire, elle veut poursuivre son travail de coiffeuse à Paris, vivre dans un appartement nouvellement construit avec tout le confort nécessaire. Peu après leur mariage, Martine et Daniel sont contraints de vivre séparément, car Daniel poursuit ses études au lycée horticole. Martine en profite pour suivre ses propres envies. Or, ses projets d'aménagement ne sont pas à la portée de ses moyens. Elle commence donc à acheter à crédit et tombe dans une spirale infernale. Si vous souhaitez connaître la suite de l'intrigue, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux, où Rose à crédit peut être empruntée. Il est disponible à la Bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de Pessac et au Centre de Ressources Mutualisées entre l'IUT Bordeaux-Montaigne et l'IJBA, qui se trouve au centre-ville de Bordeaux. En attendant de vous le procurer, pourquoi je vous conseille ce roman ? Tout d'abord, à travers son parcours et son évolution, le personnage de Martine permet au lecteur de se plonger dans la France de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour ma part, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Ensuite, la lecture de ce roman est à mon sens très intéressante car Elsa Triolet y décrit un processus d'émancipation d'une jeune femme française des années 1950 plutôt paradoxal, du moins pour les lecteurs actuels. En effet, dans les années 1950, les Françaises viennent d'obtenir le droit de vote. Le lecteur pourrait donc s'attendre à ce que Martine soit un personnage féministe. Or, Martine ne témoigne d'aucune revendication de ce type. Certes, Martine commence à travailler dès son plus jeune âge, afin de pouvoir échapper à son milieu social misérable. Toutefois, gagner sa vie lui permet de devenir non pas une citoyenne ni une femme indépendante, mais une consommatrice à part entière. Dans un premier temps, elle cherche à équiper son nouvel appartement pour s'y installer avec son mari. Certains de ses choix en termes d'ameublement ou de décoration la contraignent à contracter ses premiers emprunts. Malgré tout, il s'agit de choix strictement personnels, indépendant de la volonté de son mari, et qu'elle finance en partie sur ses propres revenus. Ensuite, elle acquiert des objets, vêtements et équipements électroménagers dont elle n'a pas vraiment besoin. Sa volonté initiale de mener une vie préservée de toute nécessité matérielle se transforme alors en désir effréné d'achat. Loin de s'émanciper, notamment de son mari, Martine devient prisonnière de son propre consumérisme. Martine organise sa vie sans tenir compte de son mari. Or, son mari s'efface de son quotidien au fur et à mesure qu'elle cumule les emprunts. À cet égard, Martine est contrainte de planifier toutes ses activités, professionnelles et personnelles, de manière à ce qu'elle participe au remboursement de ses différents crédits. Outre la multiplication de ses heures de travail, elle s'adonne par exemple au bridge, qui devient pour elle une source non négligeable de revenus. Autre exemple, sa passion pour la chanson française lui permettra même de participer à une émission télévisée dont elle remporte une somme considérable. Ce roman rappelle que les conditions économiques d'un individu sont déterminantes dans l'exercice de sa liberté. Un individu indépendant financièrement maîtrisera davantage ses choix qu'un individu contraint par une grande précarité matérielle. Néanmoins, ce roman rappelle aussi que l'indépendance financière n'est rien, sans éducation, sensibilité politique, voire histoire familiale ou nationale. À cet égard, Martine témoignait de dispositions favorables à l'apprentissage lorsqu'elle était à l'école. Or, du fait de la misère de son quotidien, elle ne s'est focalisée que sur sa volonté de quitter son milieu. L'acquisition de connaissances a toujours eu pour objectif chez Martine de développer ses ressources matérielles et financières. Elle n'a jamais exploité ses connaissances acquises à l'école pour développer son esprit critique. Aussi, Martine se révèle incapable de mesurer les conséquences de ses actes lorsqu'elle multiplie les emprunts. Par ailleurs, la misère de son milieu d'origine l'a encouragée à rejeter sa famille et à se couper de ses racines. Contrairement à Daniel qui a conscience de l'héritage qu'il doit porter et faire fructifier, Martine ne se complaît que dans le neuf. Elle est un personnage dont les goûts et le cadre de vie sont formatés. Coupée de son passé, Martine ne parvient plus à se projeter vers l'avenir et finira par gâcher sa relation avec l'homme dont elle est pourtant profondément amoureuse. Avec ces quelques éléments, j'espère vous avoir donné envie de lire ce roman qui prête à réflexion. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.